parole du jour avec le Père Willem.
Encore ces turbulences qui sont les mouvements de création au milieu desquels l'homme. Alors que le monde a été totalement bouleversé, alors que toutes les frontières ont été effacées et les seuils franchis, que les rares survivants, hommes et bêtes, ont vécu durant 40 jours dans une terrible et étouffante promiscuité, Noé commence par rétablir un semblant d'ordre et par imposer de nécessaires frontières entre le passé et le futur, entre le profane et le sacré, et entre les êtres eux-mêmes, même s'il en mesure désormais par expérience la fragilité et la vanité. Et pour concrétiser son acte, il s'arroge le droit de tuer quelques-uns des animaux qu'il a si laborieusement sauvés de la noyade, puis nourris et soignés. Mais il ne revendique pas pour lui-même un pouvoir divin. Il agit au nom de Dieu. Il confesse sa foi en Dieu, malgré ou grâce à l'épreuve du déluge, en mimant les actes créateurs de Dieu, même les plus violents. Aussi généreux et grandiose qu'il puisse paraître, le sacrifice serait pourtant sans valeur, inopportun et même scandaleux si la séparation qu'il impose n'était suivie d'une union, s'il était accompagné de l'instauration d'une alliance, de l'assurance d'une promesse et d'une loi. Une promesse et une loi, les deux pièces constitutives et indissociables de toute alliance aussi étroitement liées l'une à l'autre que le sont si couramment dans la tradition biblique l'amour et la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas là un simple rapprochement, une vague analogie. Si la vérité sans l'amour peut tuer et l'amour sans la vérité finir par étouffer, de même en est-il de la loi et de la promesse. La loi sans promesse est stérile et la promesse sans loi fantaisie pure et simple. Seule leur connivence, seule leur conspiration rendent l'alliance capable d'être le lieu d'une authentique foi en un Dieu créateur, capable aussi d'affronter les surprises et les déluges de la vie qui bousculent souvent ou menacent parfois cette foi. Une promesse, oui, quel qu'en soit le traitement philosophique et théologique, l'une des expressions les plus simples, mais aussi l'une des mises en œuvre les plus puissantes de l'idée de promesse, se trouve sans nul doute dans la Bible et, une fois encore, dans le majestueux premier récit de la création. Au temps de la Genèse, ce temps intemporel, parce que sans cesse répété, Dieu dit et Dieu fait. C'est fondamental, c'est le cœur de l'alliance et de la foi. Dieu dit et Dieu fait. Dire et faire. La promesse est par essence une parole en acte et un acte de parole, un engagement dans l'action du locuteur en raison même de la parole qu'il profère. La promesse est un acte moral et juridique, un acte sacramentel et rituel qui n'ignore pas l'inexorable écoulement du temps et ses inévitables conséquences, mais au contraire se plonge dans ce fleuve souvent impétueux, parfois caractéristique, parfois catastrophique, toujours imprévisible, avec pour seule véritable assurance celle de l'espérance. La promesse engage et porte le futur, elle ne le garantit pas, elle le rend probable. La promesse assure que malgré tous les déluges qui se profilent à l'horizon, il y aura des après. Après, oui. Même si leur forme reste souvent méconnue, aucune perturbation, aucun désastre, aucun malheur ne sera capable de ramener au temps qui précède le sacrifice consenti, l'alliance scellée, autrement dit, au temps premier primordiaux, auto va boro, une loi. Les philosophes s'interrogent volontiers sur le rôle qu'il convient de confier à la loi. Est-il celui dévolu à la rigueur de la morale, à la force du droit? Autrement dit, faut-il réduire la loi à la seule fonction contraignante et prendre le risque de diminuer la noblesse, la beauté, la pureté que nous sommes en droit d'attendre d'un engagement et d'une promesse? Les scientifiques pratiquent un esprit des lois quelque peu différent. Ils considèrent qu'une loi doit offrir une relation universelle et nécessaire entre les phénomènes. Cherchent-ils alors, en déterminant des causes, à répondre à la question du pourquoi, ou bien, en se contentant d'en examiner cette relation, à répondre à celle du comment? Charles Darwin, au moment de conclure son maître livre de l'origine des espèces, a recours à l'idée de loi. Prenons le temps de lire ces lignes non dénuées de poésie. Il est intéressant de contempler un rivage luxuriant, tapissé de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces, abritant des oiseaux qui chantent, qui chantent, qui chantent en merveille dans les buissons, des insectes variés qui voltigent ça et là, des vers qui rampent dans la terre humide. Si l'on songe que ces formes, si admirablement construites, si différemment conformées et dépendantes les unes des autres, d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous, n'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie avec ses puissances diverses attribuées primitivement par le Créateur à un tout petit nombre de formes ou même à une seule? Or, tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue de tourner, de tourner, de tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple n'ont pas cessé de se développer et se développent encore à tout instant sous nos yeux. Si nous savons observer, s'il admet l'existence des lois dans la nature, le savant britannique tient à prévenir toute méprise, toute incompréhension. Il est aussi difficile d'éviter de personnifier le non-nature, mais par nature, j'entends seulement l'action combinée et les résultats complexes d'un grand nombre de lois naturelles et parfois la série de faits que nous avons reconnus. La mise en garde est certes nécessaire, mais pas du tout rassurante pour les esprits qui tentent de trouver ou de mettre un peu d'ordre dans la nature. À la rigueur, pourrait-il admettre l'idée de sélection, si c'était possible d'y adjoindre celle d'un grand sélectionneur, quitte à démontrer qu'il est plus difficile et donc plus digne encore pour un créateur d'aboutir à un monde complexe comme le nôtre par des processus, des actes successifs de sélection que par un acte unique et définitif, que par un acte qui finalement est plus enrichissant, alors qu'il y aurait un acte accompli une fois pour toutes. Darwin n'autorise pas une telle récupération. Il refuse que l'existence des lois prime puisse, disons, offrir la moindre preuve de l'existence d'une puissance, d'une intention dont un prophète pourrait percer les desseins. il ne constate rien d'autre que le hasard, autrement dit l'absence de tout dessein, de toute finalité a priori à long terme. De leur côté, les religions, les sages, les prophètes s'appuient volontiers sur des lois, les enseignent et s'en inspirent toutefois, rappelle le Christ avec une inégalable autorité. La loi est faite pour l'homme et non l'inverse. Alors, en conclusion de ce chapitre, oui, nous pouvons dire ceci. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste, d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Alors, donne au monde le meilleur que tu as quand même. Au milieu de ce bouleversement de l'univers, que chaque être humain, vous qui m'écoutez, tous ceux qui sont autour de nous, entrent dans la danse d'une création continue et faites de l'humanité la beauté, ce que Dieu admire, oui, car Dieu est l'admirateur de la beauté de l'homme. »